de la spiritualité de notre planète. Eh bien, c'est maintenant que nous allons nous adresser à un témoin du Coran, de l'islam, d'une personne que je découvre. Il s'agit de Carole Latifa Amer.
Amir.
Oui, Carole Latifa Amir, cofondatrice du collectif d'artistes Derwish Project avec le compositeur classique Théophile de Wallensbourg. Après des études en histoire de l'art à la Sorbonne Paris 1, de langue et civilisation indienne à l'Institut national des langues et civilisation orientale à Paris, vous avez découvert et étudié le soufisme en Inde, dans la voie soufie du Chishtiya. Vous avez été journaliste, culturel, vous êtes consacré pleinement aux arts sacrés, à leur sauvegarde et à la création contemporaine. Vous avez mis en scène, conçu, organisé des spectacles, des concerts, des récitals de poésie en lien avec la culture d'islam et l'art occidental. Vous intervenez dans des médias, dans des colloques sur le soufisme en Inde, la réflexion sur l'art et la spiritualité en islam. Un mot, le soufisme, c'est vraiment le Coran spirituel, me disait un ami soufi tout à l'heure, il y a 5 minutes. Et vous avez écrit le soufisme, quand la spiritualité libère la femme, ça vous le tient tout à fait à cœur. Vous allez expliquer d'ailleurs comment, parce que c'est tout à fait original dans les visions du soufi. Eh bien, nous sommes heureux de vous donner la parole maintenant.
Merci. Alors là, c'est un autre sujet. Par contre, le soufisme et les femmes qui fera peut-être l'objet d'une autre conférence, que sinon je risque de dépasser le temps. Donc je remercie déjà la fraternité d'Abraham de nous réunir ce soir, le collège des Bernardins. Et c'est vrai que je n'ai pas le même profil que mes confrères, on va dire. Je n'ai pas un profil théologique, mais je m'interroge surtout, j'interroge les textes et mieux connaître les textes me permet aussi de travailler sur les spectacles que je présente. Et surtout me permettent au sein de colloques que j'organise de réinterroger les traditions, le spirituel. Donc les sources que j'ai employées pour l'exposé de ce soir, c'est bien évidemment le Coran, les évangiles, et je remercie Philippe Haddad d'avoir noté cet écart que peut produire la traduction entre les évangiles écrits en grec et la parole de Jésus qui était en araméen. Et d'ailleurs, les évangiles étaient connus à l'époque du prophète Mohammed et donc étaient connus en grec, avec l'écart que ça peut supposer. Mes autres sources donc ont été les écrits des savants soufis du XIIe et XIIIe siècle, principalement, à savoir Ibn Arabi et Jalaleddin Rumi, un peu aussi Sohrawardi. Je préconise toujours d'aller chercher directement dans le texte, parce que c'est là qu'est la source, puisque Philippe Haddad nous parlait de la vérité. Donc j'ai été un peu surprise quand vous nous avez dit on est chrétien que lorsqu'on a rencontré Jésus. Enfin, je pense qu'on peut être aussi musulman lorsqu'on a rencontré Jésus et que le Coran fait perdurer la présence de Jésus sur terre, en tout cas participe à faire perdurer la présence de Jésus sur terre. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que Jésus est cité dans le Coran 133 fois. Sous le nom soit de Issa, soit de Jésus, fils de Marie, ou du Messie. Et d'ailleurs, je souligne que le lien avec Marie est omniprésent, peut-être pour insister sur sa filiation terrestre également. La sourate 3e, la famille d'Imran, versets 42 à 47, nous apprend que Jésus est le Verbe émanant de Dieu. Et il est cité par Ibn Arabi, donc Ibn Arabi 1165-1240, Le site, en fait, au même titre que les prophètes qui l'ont précédé, comme autant de théophanies de Dieu. Mais pour Ibn Arabi, Jésus a des qualités bien supérieures aux autres prophètes. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Jésus est l'incarnation du souffle divin, de l'esprit que Gabriel a déposé dans le ventre de Marie. Ce qui est une différence majeure par rapport à nous, humains, qui recevons aussi le souffle divin. Mais une fois que le corps s'est déjà formé. Le Coran reprend les enseignements antérieurs, donc ceux de mes voisins, que mes voisins ont cités en tout cas, qui sont confirmés par chaque prophète. Donc dans la sourate 5e, la table servie, le verset 46 nous dit « Nous avons envoyé à la suite des prophètes Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui était avant lui, de la Torah. Nous lui avons donné l'évangile où se trouve une direction et une lumière pour confirmer ce qui était avant lui, de la Torah, une direction et un avertissement destinés à ceux qui craignent Dieu. » Donc la version française du Coran que j'emploie est celle de Denise Masson. Vous voyez, les femmes sont à l'honneur même dans les sources. Jésus est considéré donc comme un prophète, mais aussi comme un envoyé. Donc ça rejoint ce que le père de Longeau nous a dit. Ce qui n'est pas le cas de tous les prophètes en islam, mais ce qui est le cas de ceux que nous avons étudiés auparavant dans les conférences à trois voix. Et donc le messager apporte un message divin et une nouvelle législation. Jésus est également venu pour réformer la Torah. Dans la sourate 3e, la famille d'Imran, verset 50, « Me voici, confirmant ce qui existait avant moi de la Torah et déclarant licite pour vous une partie de ce qui vous était interdit. » Donc en fait, il n'y a pas une énorme réforme de la Torah. Cela concerne principalement des interdictions de nature alimentaire. Et donc Jésus n'est pas venu réellement avec de nouvelles lois, mais plutôt avec de nouvelles indications spirituelles. Et il est venu pour, je dirais, renforcer la dimension spirituelle de la tradition de la loi de Moïse. Alors, je vais vous citer, parce que j'aime beaucoup citer les sources, l'évangile de Jésus selon saint Matthieu, chapitre 15. Alors, justement, on y parle des pharisiens et des scribes. Alors, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Là, vous vous dites « Oh là là, va partir dans quoi ?» Jésus appela la foule. Alors, il y a une petite coupe, hein, même une grosse coupe. Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre pour être éliminé ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Alors, si j'ai cité cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est parce qu'aujourd'hui l'islam est trop souvent noyé dans le littéralisme et dans une approche matérialiste, principalement basée sur le licite et l'illicite, le halal et le haram. Et l'enseignement de Jésus, comme nous venons de le voir, serait à revivifier pour beaucoup d'entre nous. Donc, on a vu que le rôle de Jésus ne repose pas sur la réforme, mais réellement sur la sainteté. Donc, en arabe, vilaya, qui est plutôt à comprendre donc en islam comme l'amitié divine, dans la proximité divine. Donc, Jésus a été fortifié par le Saint-Esprit, c'est ce que nous dit la sourate deuxième, la vache, verset 253. Nous avons élevé certains prophètes au-dessus des autres. Il en est à qui Dieu a parlé, et Dieu a élevé plusieurs d'entre eux à des degrés supérieurs. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes. Nous l'avons fortifié par l'esprit de la sainteté. Bon, à chaque fois, c'est vrai que je me replonge dans les sourates, j'espère que ça ne vous dérange pas, pour vous démontrer que ce que je dis, je ne le sors pas non plus de mon propre esprit. Donc Jésus est considéré en islam comme le sceau de la sainteté, tout comme Mohammed est considéré comme le sceau de la prophétie. Et le père de Longeau nous a brièvement parler des miracles de Jésus. Et dans le Coran, on insiste bien que ces miracles ont tous été réalisés avec la permission divine. Et quelque part, on se demande pourquoi dans les sourates, on insiste à chaque fois sur cette permission divine. C'est aussi pour témoigner d'une chose, c'est la transcendance de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, on ne s'arrête pas, je dirais, à Jésus. Donc, je ne vais pas citer, mais il y a la sourate 5e, la table servie, verset 110, qui rappelle justement cette permission de Dieu par rapport au miracle. Sauf si vous voulez que je cite cette sourate pour connaître les... Oui,
oui.
Allez. Oui. Je vois que le docteur me fait des gros yeux en me disant « Oh, il y a beaucoup de textes. » Non, ça va. Vous me dites, hein, sinon. Alors, Dieu dit, donc ça c'est le début de la sourate. « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mes bienfaits à ton égard et à l'égard de ta mère. » Je t'ai fortifié par l'esprit de sainteté. Vous voyez, ça revient sans arrêt dans le Coran, lorsque le Coran parle de Jésus, l'esprit de sainteté. Dès le berceau, tu parlais aux hommes comme un vieillard. Alors, je pourrais vous raconter l'histoire peut-être tout à l'heure, si j'ai assez de temps. Je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu crées de terre une forme d'oiseau. À partir de ma permission, tu souffles en elle et elle est oiseau avec ma permission. Tu ressuscites les morts avec ma permission. On évoque aussi le fait de rendre la vue à l'aveugle, etc. dans d'autres sourates. Donc la notion de permission, comme finalement le père de Longeau l'a évoqué, est très importante, donc on le voit et dans le Coran et dans l'enseignement aussi du soufisme qui se fait par l'intermédiaire, alors on peut dire d'un maître, d'un guide spirituel, ce qu'on appelle un shir ou un murshid. Et d'ailleurs Jésus se place un peu, même pas un peu, se place comme un shir dans le soufisme, mais pas n'importe lequel, c'est-à-dire un shir, un guide spirituel parfait. Et c'est intéressant de noter que Ibn Arabi a toujours eu beaucoup d'amour pour Jésus, puisque Jésus, et le dit lui-même, a été son premier maître, a été celui qui l'a fait venir dans la voie soufie. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jésus selon saint Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, c'est Thomas qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc pour les soufis, cette notion de « je suis la voie, je suis le chemin », bon, tout dépend de la traduction, est importante. Et aussi cette notion, comme l'a rappelé dès le départ le rabbin Haddad, cette notion de vérité, quand Jésus dit « je suis la vérité », eh bien cela rappelle l'expérience mystique chez un soufi qui est Halaj, et qui en fait fut crucifié ou pendu, suivant les sources, qui parfois même est surnommé le Christ de l'islam. Et pourquoi il a été donc crucifié ou pendu, Halaj, Mansour Halaj? Parce qu'il a, proclamé « en al-haq », « je suis la vérité », ce que Jésus a dit. Et donc, les croyants à l'époque de Halaj ont compris que Halaj disait « je suis Dieu ». Et c'est pour ça qu'il a été, crucifié. Parce qu'il a été incompris. Il a été incompris parce que Halaj, en disant « al-haq », voulait souligner le fait qu'il s'était réalisé dans l'état d'extinction en Dieu de son vivant. Ce qu'on appelle dans le soufisme « fana ». Cette annihilation, pardon, de l'individu, de l'individu en Dieu. Halaj, comme Jésus, ne disent pas « je suis Dieu », mais « je me suis annihilé en Dieu ». Il y a un hadith, un qudsi, où Dieu parle à la première personne et qui dit « Et quand je l'aime, c'est-à-dire son serviteur, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. » Donc on voit que dans l'islam, Dieu est immanent. Il est en nous, en toutes choses, dans la beauté des paysages. Je vous invite d'ailleurs à lire soit le Coran, soit El Razali également, pour ce côté immanent de Dieu. Le divin irradie sur le miroir du cœur de chaque être humain. Et c'est pour ça que dans le soufisme, symboliquement, on invite les disciples à polir le cœur, à en enlever la rouille. Ça, c'est par rapport au miroir qui, auparavant, était de métal. Et pourquoi enlever la rouille? Pourquoi polir son cœur? Eh bien, c'est pour mieux refléter cette lumière divine. Donc, si en islam, Dieu est immanent, il est aussi associé à la transcendance. Vous me dites par rapport au temps, parce que...
Ça fait 10 minutes encore.
D'accord, donc je vais aller un peu plus vite. Et l'extériorisation du divin par les formes est une limitation. Et Dieu n'a pas de limite, donc je vais rejoindre un peu le père de Longeau. notamment en citant une sourate qui, en islam, est fondamentale, qui est la sourate 92e, le culte pur. Alors, dit lui, Dieu est un, Dieu l'impénétrable. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, nul n'est égal à lui. Donc ça rejoint en partie ce que le père de Longeau nous a dit. En partie. Il faut bien trouver du commun entre nous deux. Hein. Voilà. On ne peut pas dire le contraire, parce que c'est qu'en partie. Mais en tout cas, lorsque vous nous avez parlé du côté...
Vous pourrez débattre.
Bon, d'en débattre, il y a battre, alors. J'espère qu'on va se réunir plutôt. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'enseignement soufi, c'est toujours l'approche intérieure d'un texte, le côté ésotérique, et donc pas uniquement exotérique, ce rapport toujours entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'apparent et le caché, si c'est ce qui nous définit aussi en tant qu'individu. Et donc, Sohrawardi, qui est un savant né en Iran actuel, donc 1155-1191, écrit « On rapporte que Jésus a dit « Celui qui n'est pas né deux fois n'entrera pas dans le royaume des cieux. » Et donc, ce que Sohrawardi cite entre en résonance avec le chapitre 3 de l'évangile de Jésus selon saint Jean, où donc un pharisien nommé Nicodème vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, voyez, finalement, les pharisiens ne sont pas mal présentés hein, non plus dans les évangiles. « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Donc, dans le soufisme, Jésus incarne en nous, symboliquement, la naissance de l'être spirituel. Et Marie représente, symbolise, l'âme du croyant. Elle symbolise l'état de pureté de notre âme pour faire naître notre enfant spirituel. Donc là, je vais être obligée de vous citer les sources parce que vous allez vous dire, mais d'où elle prend ça? Donc, le Jalaleddin Rumi, de mémoire 1207-1273, dit... Si ton âme est assez pure et assez pleine d'amour, elle devient comme Marie. Elle engendre le Messie. Et il continue. Notre corps est pareil à Marie. Chacun de nous a un Jésus en lui. Mais tant que les douleurs de l'enfantement ne se manifestent pas en nous, notre Jésus ne naît pas. Donc on voit par rapport aux douleurs de l'enfantement que la naissance de l'être spirituel ne se fait pas en nous si facilement, ne se fait pas en nous sans effort, ce qui est en arabe le mot djihad, c'est-à-dire l'effort, ne se fait pas sans séparation aussi avec les attaches matérielles. Et Rumi développe, donc dans son œuvre considérable, qui est le Mesnevi, Mesnaoui en arabe, livre 2, distique 3555. Et je finirai en fait par cette citation de Rumi. La douleur naîtra de ce regard jeté à l'intérieur de soi-même. Et cette souffrance fait passer au-delà du voile. Tant que les mères ne sont pas prises des douleurs de l'enfantement, l'enfant n'a pas la possibilité de naître. Ma mère, c'est-à-dire ma nature, par ses douleurs d'agonie, donne naissance à l'esprit. Si les douleurs lors de la venue de l'enfant sont pénibles pour la femme enceinte, par contre, pour l'embryon, il s'agit de l'ouverture de sa prison. Donc, ce n'est pas ma phrase de fin, mais c'est ce qui insiste le plus sur le côté spirituel de Jésus dans notre enseignement. Un côté spirituel qui est bien plus fort que le corps, bien plus fort que le matériel, que aussi les disputes que peuvent générer tout ceci autour du matériel. Et l'enseignement de Jésus, pour nous, c'est une leçon aussi pour vivre dans ce monde qui est un monde de technologie, de matérialisme. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire, juste de méditer sur l'enseignement de Jésus.
Merci, Carole, parce que vraiment, vous avez donné une vision très belle de Jésus et montré son importance extrême dans le Coran, que j'ai entendu d'autres exposés qui avaient déjà souligné cela. Il est plus qu'un prophète dans le Coran, puisque vous avez dit c'est celui qui est fortifié par le Saint-Esprit. Il a une place tout à fait unique dans le Coran, et vous l'avez bien souligné. Et puis, alors, en ce qui se concerne la vie spirituelle, vous avez bien montré l'importance de la naissance spirituelle avec ce rapprochement avec l'enseignement de Jésus à Nicodème. Bon, il y aura des différences, bien sûr, avec la théologie chrétienne, mais vous l'avez bien montré, l'importance de cette naissance. J'ai bien aimé ces expressions. Si tu te laisses purifier, ton âme devient comme Marie. Ça résonne très bien avec toute une spiritualité mariale chrétienne, en tout cas. Enfin,